Et bonsoir à tous, bienvenue sur Amix Réflexion Live pour ce show numéro 225. Ça fait plaisir de se retrouver comme chaque semaine et comme chaque semaine ben, en live sur YouTube, sur Twitch et sur Facebook Amix Réflexion Live. Ben, pour ceux qui ne le savent pas, on est aussi dispo au format podcast, comme ça vous pouvez nous écouter toute la semaine en allant au boulot. Voilà, en général, ça fait une petite heure hein, à passer avec nous, donc c'est plutôt cool sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On met ça en ligne de suite après le live. Donc voilà, on démarre bien la semaine encore avec un live multi-invité. On reçoit... deux invités champions de France à 20h30. Le premier à passer, ce sera Valentin Guillot. Et à partir de 21h, c'est Tom Guyon qui nous rejoindra. Deux invités qui ont pas mal performé ce week-end à Romagné. Donc ça va être cool. On va parler d'actualité. Ça va être bien sympa. On va parler motocross, supercross. On va même parler peut-être même un peu moto électrique avec nos invités. Mais surtout avec l'homme vêtu de noir qui sort beaucoup de chez lui en ce moment. On te disait la semaine dernière le meilleur formateur de France. Ben là, tu deviens. Le meilleur testeur de la galaxie, j'ai envie de dire, avec cette Starberg. Comment ça va, Blaise ?
Et très bien, merci. Bonjour, bonjour à tous, bonsoir à tous. Et exactement, on a testé la Starberg là, ce week-end et 3 jours d'affilée, donc c'est pas mal. On est parti pour 3 mois à tester cette moto, donc voilà, c'est bien. On va,
ça fait plaisir de sortir de chez toi un petit peu. Là, je suis venu te filmer sur un motocross pour cette Starberg. Là, tu vas venir m'aider sur un chantier pour fixer une caméra timelapse à 40 mètres de haut. Donc ça, ça va être pas mal. Tu sors de chez toi, ça me fait plutôt plaisir.
Exactement. Mais bon, on va parler en tout cas de plus de MXGP, d'élite avec notre invité. Comment ça va, Valentin ? La forme ?
Ouais, salut tout le monde. Ben, ça va bien. Hein. De retour en Suisse pour une semaine, un peu de vacances. Donc ça fait du bien d'être à la maison.
Ouais, comment ça se passe pour toi ? Tu retournes souvent en Suisse ou tu restes quand même en France avec le team ?
Ben là, ça faisait 2 mois que je n'étais pas revenu en Suisse parce que ben, je suis basé dans le sud à Uzès, où il y a Yves Desmarais qui est basé. Et puis avec ça, ben, on s'entraîne tout le temps là-bas. Et puis là, on a enchaîné 7 week-ends de courses d'affilée. Donc, pas le temps pour revenir en Suisse.
Ouais, c'était une de mes questions. C'est vrai que toi, tu as un programme chargé cette année entre l'élite et MXGP. Qu'est-ce que tu prévois d'autre ? Est-ce que tu prévois d'autres courses entre-temps ou ce planning va suffire à lui-même ?
Non, alors en fait, il n'y a pas le temps de faire d'autres courses parce que ben là, on a commencé, c'était quoi, je crois, l'Argentine, après la première du France, puis après, on a enchaîné tout le temps Grand Prix et puis Championnat de France. Là, on a un week-end de libre. Et puis, à partir du Portugal, le week-end prochain, on renchaîne pour 7 courses d'affilée jusqu'à, ben, ça fait Majora et puis la finale à Ernée qui tombe le même week-end. Puis après, là, on a un week-end de libre, puis on part 2 semaines en Indonésie. Donc, ouais, pas le temps pour l'instant pour faire des autres courses.
Gros programme, comme tu l'as dit. Comment tu l'as préparé, toi, cette saison ? Parce qu'on sait que tu commences à avoir de l'expérience vraiment dans le milieu. On sait que tu as eu aussi de l'expérience à MXGP. Cette saison, tu l'as préparé différemment ou pas des autres ?
En fait, la grosse différence cet hiver, c'est que mon nouveau coéquipier, Kevin Ormo, c'est un jeune qui monte du 2,5 au 4,5. Donc, ça m'a un peu réveillé. Parce que maintenant on est des concurrents. À l'époque, en fait, les autres années, je m'entraînais comme avec Emile Weckmann ou Stéphane Rubini qui étaient eux plus sur le 2,5. Donc là, c'était cette fois voilà, un pilote qui est capable de faire du top 10 qui est mon concurrent. Donc voilà, donc c'était cool. C'est ça qui a vraiment fait la grosse différence cet hiver.
D'ailleurs, je l'affiche hein, actuellement. On voit le championnat. MXGP, on voit que toi tu es en 9e position, ton coéquipier en 10e position, c'est serré, 82 points pour lui, 88 pour toi. Il y a une émulation positive au sein du team et au sein des entraînements.
Bah ouais, c'est vraiment cool. Déjà, lui en tant que personne, c'est vraiment c'est une bonne personne, c'est un bon coéquipier, c'est un jeune qui est motivé, qui râle pas. Même qu'il en fait un peu trop des fois. donc c'est cool. Et puis avec ça, y a une bonne entente avec lui, avec Yves et moi. Et puis, puis après, quand on voit le classement, on est 9 et 10, team privé. On est capable de se battre avec les motos d'usine. Donc c'est vraiment top pour tous les sponsors qui nous soutiennent dans cette aventure.
C'est ça, ça apporte quoi essentiellement ce jeune pilote, on va dire ?
En fait, tous les entraînements, c'est la course, quoi. C'est tout le temps une compétition. Donc le jour où je ne suis pas bien, lui, il est peut-être en forme, donc je n'ai pas envie qui roulent plus vite que moi, donc je me force à les à me dépasser. Donc ça c'est cool quoi. Puis après que ça soit du vélo ou des choses comme ça, donc c'est bien. Après des fois, ce qui est un peu compliqué, c'est l'ego. Des fois il faut un peu se calmer, surtout des fois en vélo de route, on commence à se tirer la bourre et tout. Alors que, bah, en fait, c'est pas là où il faut qu'on soit performant, c'est sur la moto, mais c'est cool, quoi. Ça donne des fois des bonnes petites attaques avec Yves quand on met une derrière, donc c'est cool.
Et c'est ce que j'allais te demander, Yves, vous vous entraînez à tous les deux, autant physiquement que sur la moto?
Ouais, vraiment, on a le même programme à 100%. Puis Yves est vraiment tout le temps avec nous, que ce soit pour le sport ou pour la moto, donc c'est lui qui gère à 100%. C'est quelque chose qui me manquait quand j'ai arrêté de travailler avec Yves dans ces dernières années. C'est en fait, Yves, il gère tout. Donc, en tant que pilote, je ne me pose aucune question. Je vais au lit le soir, je me réveille le matin, je déjeune. Et puis, il dit à 9h30, on est à rendez-vous là, on fait ça. Et puis, en fait, je rentre à la maison, je mange à midi, je fais la sieste. À 14h, on recommence, on fait notre séance. Et en fait, le soir, je rentre à la maison, je me fais à manger, je vais dormir. Puis, je ne me pose pas la question, c'est, ah, j'aurais dû m'entraîner peut-être plus fort, j'aurais dû faire peut-être ça, j'aurais dû courir au lieu d'aller faire du vélo. Là, en fait, je ne me pose pas cette question. Donc, c'est ça qui est vraiment bien avec Yves, c'est qu'il gère tout ça. Et puis, avec Kevin, on a le même programme. Et puis, il y a juste, ben, moi, j'ai maintenant un peu la maturité pour dire, ben, écoute, Yves, cette semaine, je n'ai pas envie de rouler parce que ben, je suis fatigué mentalement. Et puis, je préfère bien récupéré pour aller au Grand Prix suivant, alors que Kevin, lui, il est encore dans le truc. Ah, bah tiens, il faut quand même que je roule une fois pour être sûr. Donc voilà, ça, c'est des petites différences.
Ouais, surtout que sur les Grands Prix, vous roulez beaucoup. Je sais pas ce que tu en penses, mais comparé au championnat US, par exemple, en outdoor, vous avez beaucoup plus d'heures de moto en un week-end, notamment depuis qu'il y a les manches qualif. Donc c'est quelque chose qui quand même apporte des heures. Alors si je suppose qu'avec le travail de la semaine, ça commence à faire peut-être beaucoup des fois, comme tu le disais, mentalement, ça peut user.
Ouais, ben en fait, là, depuis maintenant, ça fait 2 mois qu'on a commencé les courses. Pour être honnête, la semaine, on ne fait plus grand-chose. En fait, on fait le lundi, on rentre. Donc, si on n'arrive pas trop tard, on peut faire notre séance récup. Sinon, on la décale au mardi. Et si on arrive à la faire le lundi, le mardi, on ne fait rien. C'est notre journée. On fait la sieste toute la journée. Mercredi, on fait des fois un coup de moto ou des fois, je dis, j'ai même pas envie de rouler. Le jeudi matin, on fait une séance de sport, un coup de vélo de route ou de course à pied. Ben, le jeudi après-midi, on repart déjà sur le Grand Prix parce que maintenant, il faut vraiment être là le vendredi à midi pour pouvoir faire les tests départ le vendredi à 4 heures. Donc, les semaines sont super courtes. Et puis après, bon, on enchaîne tellement les déplacements que ça prend vraiment beaucoup d'énergie. Et puis après, ben, samedi, dimanche, où il faut être performant. Donc, faut pas en faire trop la semaine, il faut bien récupérer et puis être fort le week-end.
Ça fait presque penser à un programme d'enduro où bientôt vous allez arriver le mercredi pour marcher sur la piste, faire les tests de départ. Et
Ouais.
ça me faisait venir du coup une question. Vous faites toujours le tour de la piste? Un gars comme toi qui connaît toutes les pistes du MXGP, vous faites encore le tour de la piste à pied?
À moitié, on regarde de loin, on arrive à voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Malheureusement, en MXGP, ça ne change pas trop, à part nous mettre des bosses un peu de partout pour essayer de ralentir, mais ça continue à aller toujours vite. Non, donc on fait plus. Comme quand on est gamin, on marche toute la piste. Non, ça, on fait plus trop.
Tu penses quoi, toi, de l'évolution du niveau au fur et à mesure des années? Tu penses que ça a été constant, il y a eu un pic à un moment donné avec un certain pilote ou pas? T'en penses quoi, toi, de ça?
En fait, maintenant, il y a vraiment un niveau de fou qui est vraiment homogène. Alors, bien sûr, il y a tout le temps 3-4 gars qui se battent pour le titre. Là, on le voit avec Prado, Fèvre, Geyser, Erling, Siver, il y a un peu ce groupe-là. Puis après, ben, on est entre 7-8 pilotes à rouler la même vitesse. Tout d'un coup, il y a un mec qui est mieux, donc il est un peu plus devant. Donc il est vraiment, c'est vraiment homogène. Et puis c'est là où les médias et puis Ustream, tout ça, enfin Infront, avec la réalisation TV, j'essaye de leur dire qu'en fait, un top 10 maintenant, c'est vraiment un gros résultat. C'est comme en fait en Formule 1, quand les mecs ils font dixième, ils arrivent à marquer un point, c'est un gros résultat. Et puis ça, ils oublient un petit peu que maintenant on a un gros niveau et que qu'il y a des grosses batailles entre la 8e et la 13e place.
On en a parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec tes adversaires de l'élite, hein, Maxime Després, Greg Aranda, et ils nous disaient un petit peu la même chose, que eux ne vont pas justement sur les MXGP, même en France, parce que c'est difficile, ça apporte pas grand-chose au niveau financier. Vous, comment ça se passe on va pas parler de niveau financier, mais par rapport au team, vu que vous arrivez à faire la saison complète des MXGP, j'imagine que ça doit être un budget conséquent. Comment ça se passe pour vous, justement, pour avoir ces retombées que tes adversaires de l'élite n'ont pas?
Alors, budget. Alors déjà, on est un team privé. Donc après, c'est sûr, pour tous les chiffres, tout ça, il faudrait demander à Joss, mais de ce que je sais, on est un team privé. Les deux pilotes ont fait tout le championnat. On va dire qu'on est un des plus petits budgets. Puis après, les teams d'usine, ça tourne autour de 2 à 5 millions de budget. Et puis nous, que le team cross de Honda SR Moto Blues, on est à 400 000 euros, je pense. Et c'est là, en fait, justement, la fierté qu'on a de pouvoir faire des top 10, des top 8, mettre des motos d'usine derrière nous. Donc voilà, c'est le côté, on va dire, la structure. Puis après, si on parle finance, bien sûr, comme j'ai dit avant, il y a 3-4 gars qui gagnent beaucoup d'argent. Après, de la 5e à la 8e place, ça gagne des belles sommes. Puis après, on arrive dans ma situation, entre la 9e et la 12e place, où on gagne une somme correcte. Puis après, derrière, ça gagne plus, puis ça commence à payer. Donc c'est sûr que le mec qui est 20e, il va dire, ouais, c'est nul, on ne gagne pas d'argent. Mais on demande aux mecs qui sont dans les trois premiers, ils se disent, on gagne bien notre vie. L'objectif, c'est de faire les meilleurs résultats possibles pour augmenter son salaire.
Ouais, justement, là aujourd'hui en catégorie MXGP, qui est vraiment la catégorie reine, on peut pas faire mieux en matière de motocross aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des pilotes qui payent pour rouler? Alors peut-être pas des pilotes, mais du moins qui soient accompagnés par des sponsors pour rentrer dans les structures.
Mais ça a toujours existé. Ça a commencé en Formule 1, en MotoGP, puis c'est arrivé en cross. Mais bien sûr, il y a tout le temps un sponsor. À l'époque, il y avait Bogers qui avait tout le temps HSF, un gros transporteur. Il l'a perdu, donc du coup, il n'avait plus de contrat pour cette année. Et puis, les choses ont fait qu'il a eu un peu de chance qu'un pilote se blesse et puis qu'il récupère son guidon. Mais ouais, il y a toujours des. C'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant quand quelqu'un vient avec 100 000 que quelqu'un demande 100 000.
Et
C'est
du coup,
à la fin, c'est du business, quoi.
ouais, c'est ça. Parce qu'on s'en rend compte que c'est du business, mais j'ai envie de rafficher quand même le classement parce qu'on voit clairement que vous êtes 9 et 10 dans le team, mais il y a peu de pilotes privés, hein, si je ne me trompe pas devant. Il y a Vlaanderen qui doit être dans un team.
Factory.
Ouais, qui est Factory maintenant.
Ouais.
Factory,
En
ouais.
fait, le seul, ça serait
Jonas.
Jonas
Ouais, Jonas,
avec
ouais.
Standing Construct. On va dire que eux, c'est un team, on va dire semi-officiel. Ils ont le soutien d'Honda Europe que nous, on n'a pas. Nous, on a la chance d'avoir Honda France qui nous donne le budget pour pouvoir faire ça. Puis c'est pour ça, en fait, que Joss s'investit aussi dans le Touquet, parce que le Touquet avec Honda France nous permet aussi de faire le MXGP et puis le championnat de France. Donc nous, on n'a que ça comme aide. On peut dire que nous, on est 100% privé. Et puis Standing Construct, ils sont semi-officiels. Et puis on va dire que Standing Construct, le patron, il investit autant que des teams d'usine. Il a presque le même budget que les teams d'usine, alors que nous, on est vraiment loin derrière. Donc c'est cool de pouvoir dire qu'on met deux motos privées dans le top 10 du mondial.
Juste quand on voit la complexité que c'est, on va dire, en Europe, parce que c'est beaucoup des pilotes et des teams européens de performer et d'avoir des revenus, est-ce que ça ne vous donne pas l'idée des fois d'aller aux US, d'aller faire une pige, pourquoi pas en outdoor? On sait que ça paye moins quand même l'outdoor aux US, mais avec le niveau que vous avez, des fois, en connaissant bien les circuits, en y allant pendant la saison de Supercross, pendant qu'ils sont en Supercross, en s'entraînant sur la plupart des circuits, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de tenter sa chance là-bas?
En fait, ça dépend tout le temps les objectifs qu'on a. Moi, en 2015, j'ai passé à côté d'un titre champion du monde en MX2. Puis après, j'ai eu une période assez noire dans ma carrière. Et puis, je me suis dit que j'allais tout faire pour pouvoir revenir aux avant-postes et puis pas avoir de regrets à la fin de ma carrière, de tout tenter pour pouvoir faire les meilleurs résultats possibles. Donc, en fait, moi, je suis concentré sur la MXGP. Et puis, je sais que je peux encore faire des beaux résultats ces prochaines années en MXGP. Donc je ne pense pas à partir aux États-Unis, bien sûr. Quand je me battais en 2015, quand je faisais des victoires de GP ou de podium, j'ai eu des teams US qui m'ont contacté pour aller là-bas. Mais après, ouais, mon objectif, c'était le mondial. Donc je ne me suis jamais trop penché pour aller là-bas, quoi.
Ouais, parce que qui dit US dit aussi bah, Supercross, forcément, ça pèse beaucoup dans la balance chez eux. Tu as
Ouais,
déjà
c'est
pratiqué le Supercross?
surtout le supercross et puis un petit peu le motocross à côté. Chez eux, c'est plus vu comme ça, alors que nous, c'est que le motocross. Oui, en 2014, 2014, je gagne le supercross à Genève en 250. Et puis, ce qui est cool, c'est que Jos termine troisième, donc il est avec moi sur le podium. Et puis, après, en 2015, je roule en 4,5, je dois faire quatrième à Genève, et puis aussi le Paris-Lille en 4,5, je fais 4 aussi. Ouais, le Supercross, j'ai tout le temps bien aimé. Mais après, maintenant, avec les championnats qui sont aussi longs, ça devient difficile de faire du Supercross l'hiver,
Ouais, aujourd'hui, pour toi, faire le Supercross de Paris, ça serait compliqué, trop compliqué de s'entraîner pour cet événement.
ben, pour aller et puis faire. De la figuration, le dixième, c'est possible parce que on a quand même un certain niveau sur la moto, puis c'est possible d'aller faire du supercross. Par contre, aller pour faire un résultat, ben c'est compliqué parce qu'en fait, on va terminer la saison les nations, c'est début octobre. Et puis là, ça fait depuis le 1er novembre qu'on s'entraîne. Donc en fait, terminer la saison, ça fait 11 mois d'entraînement et de course. Puis en fait, il faut tout de suite attaquer avec le Supercross, puis en fait faire la course. Puis dès qu'on a fait la course de Paris, il faut tout de suite enchaîner avec l'entraînement MX, et puis faire les tests et tout pour la saison 2025. Donc en fait, on fait jamais de pause. Puis les risques de blessure après augmentent très rapidement parce que si on fait jamais de pause, au bout d'un moment, ça lâche, quoi.
Et est-ce que ben, Joss, qui est team manager, vous fixe des objectifs en début de saison, autant à toi qu'à ton coéquipier? Est-ce que vous avez le même matériel, vous deux?
Alors, même matériel, oui, on a la même chose. Le team se donne à 100% pour qu'on ait le meilleur matos possible et puis nous laisse vraiment la possibilité d'avoir les réglages qu'on veut. Donc ça, c'est cool. Des fois, c'est peut-être un peu trop parce que des fois, moi, je suis capable de changer quatre fois les choses et puis revenir. Et puis au bout d'un moment, ils disent, ouais, maintenant, il faut vraiment prendre une décision. Donc des fois, un peu trop de possibilités de changer. Mais voilà, donc c'est vraiment cool d'avoir des personnes comme ça qui nous donnent vraiment la possibilité d'avoir les meilleures conditions possibles. Et puis après, c'était quoi la question?
En termes
Si,
d'objectifs, tu sais,
en
est-ce qu'il vous
termes
donne des objectifs?
ouais, objectif. Non, ils ne nous donnent pas d'objectif, mais en fait, on a la même vision. De toute façon, l'année passée, je fais 9. 9 du mondial. L'objectif, c'est d'être aussi bien que 9e et voire mieux. Et puis voilà, comme on dit, quand on peut mettre la moto privée dans le top 10, c'est vraiment, vraiment top, quoi.
Le championnat de France élite, bon, tu as été champion l'année dernière, tu y participes depuis plusieurs saisons maintenant. Est-ce que c'est quelque chose que tu ferais encore si c'était pas dans le programme du team? Est-ce que toi tu t'aimes bien ce championnat et est-ce que tu y participerais encore tout seul?
Alors, si ce n'était pas obligatoire, non, je ne pense pas que je le ferais. Peut-être je ferais quelques courses parce qu'il y a des belles pistes et puis il y a surtout un bon gros niveau. Donc ça, c'est vraiment bien. Après, je ne le ferai pas parce qu'en fait, au niveau des l'accumulation de courses, comme je le dis, là on a fait cette course d'affilée, puis après on renchaîne avec cette course. Donc au niveau de la récupération, c'est vraiment pas facile. Comme on a eu l'Argentine, on est arrivé le mercredi parce que notre avion a été annulé, donc on est arrivé un jour plus tard. Et puis le samedi, il fallait déjà être au championnat de France à Bali, donc il y a encore tout le décalage horaire. Quand on commence les essais à 8h30, avec le décalage horaire, c'est comme s'il était 3h30 du mat. Donc voilà, ça fait toute de la fatigue qui s'accumule. Donc si ce n'était pas obligatoire, non, je ne pense pas que je m'engagerais à 100% sur le championnat de France.
Ouais, on voit le classement. Hein. Est-ce que justement, si je continue juste une dernière question rapidement sur les objectifs, est-ce que toi, tu sens que tu as plus d'objectifs ou ça tient plus à cœur à Joss le mondial ou l'élite?
C'est une question un peu pas difficile, mais faire un titre de champion, c'est un titre de champion, que ce soit de ta ligue ou du championnat de France, c'est un titre. Et quand tu es premier, on parle de toi. Pour les sponsors, être premier en France, tous les sponsors sont contents. 9e du mondial, ouais, c'est bien, c'est le championnat du monde, mais bon, c'est 9e. En fait, c'est là la différence que les
C'est
gens
que, ouais,
n'arrivent
en
pas à
gros,
se rendre
ce
compte, en fait.
que tu veux dire, excuse-moi, mais c'est juste, j'imagine que pour le team, ça sera peut-être plus important l'élite, et pour toi, ça sera plus important le mondial, c'est ça?
Ouais. On va dire au niveau des sponsors, c'est mieux de faire champion de France parce que tout le monde en parle. Et puis les sponsors sont français, donc tout le monde est content. Mais après, le côté sportif, faire 9e du mondial avec la structure qu'on a, eh ben, je sais que tous les gens du milieu, ils sont vraiment contents de réaliser ces résultats. C'est sûr que Joss est super content de pouvoir, est fier de mettre ces deux motos 9 et 10. Et puis après, si on prend moi, côté personnel, ma tête, elle est sur le MXGP. Tous les matins, je me lève, c'est pour performer en MXGP. Donc c'est pour ça, c'est pas facile de. En fait, je mets toute mon énergie sur la MXGP, toute ma concentration et tout ce qu'il faut là. Et puis en fait, le championnat de France, inconsciemment, j'arrive avec en se disant, tiens, il faut quand même pas que je prenne tous les risques, il faudrait pas se blesser là, il faudrait pas tomber. Donc il y a un peu ce décalage que si je prends l'inverse de Max ou Greg, eux c'est leur championnat, c'est là qu'ils font leur argent et puis c'est là qu'ils ont leur objectif. Donc eux en fait ils peuvent se permettre de prendre tous les risques. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu cette différence, on va dire, c'est plus une différence mentale qui se fait.
T'as eu l'occasion de participer plusieurs fois au Motocross des Nations. Ça représente quoi, pour toi cette course?
C'est une belle fierté. C'est une belle fierté. Quand on pense, on n'est que trois mecs du pays à pouvoir faire ça. Alors nous, on est un petit pays, ça va, mais
Ouais,
si
mais
tu
c'est
prends
un petit,
comme.
j'allais le dire, mais vous êtes un petit pays, mais bon, il y a quand même un beau bassin de pilotes, quoi. Un beau
Ouais,
réservoir de
c'est
pilotes.
vrai. C'est vrai. On a là. En fait, on a des bons pilotes qui sont capables, mais le jour du Motocross des Nations, il nous manque un petit truc pour vraiment aller chercher ce podium qu'on court après depuis pas mal d'années. On essaye de tout faire pour y arriver. Mais après, justement, comme la France qui est un grand pays, ou comme ça, où, nous, on se compare, voilà, on a la chance, on est trois pilotes du pays à pouvoir aller représenter les couleurs. Donc c'est vraiment une énorme fierté.
On a parlé Nation, MXGP, on a parlé aussi que vous étiez un team privé. C'est quoi la différence en termes de moto entre un pilote privé et un pilote usine? On imagine très facilement qu'en 2,5, il doit y avoir une énorme différence parce que bon, le moteur est hyper important. À 4,50, peut-être un peu moins. Ou alors, est-ce que toute cette partie électronique qui est arrivée ces derniers temps, tout ça joue beaucoup, beaucoup sur les performances de la moto, notamment au départ et même dans le reste sur le reste du circuit?
Ouais, alors, Je pense que comment expliquer ça? En fait, moi, ce que j'ai vu l'année passée, c'est que le samedi, j'arrivais à être assez proche des mecs. Et puis le dimanche, il y a quand même un plus grand écart. Donc en fait, c'est là que je me suis aperçu que justement, dès que la piste commence à devenir encore plus défoncée, ben, leur moto permet de gommer un petit peu ben, le fait que ça s'est défoncé plus avec l'électronique, avec
Les
les
châssis différents.
suspensions et tout, les châssis, voilà, ouais. Ouais, c'est tout bête, mais un team d'usine, les mecs, ils vont rouler. Allez, pas tous les entraînements, mais quasi tous les entraînements, il y a les gars des suspensions qui sont là, ils essayent d'optimiser tout le temps. Alors que nous, en tant que team privé, on a dû faire deux tests de l'hiver. Et puis après, on essaie tout le temps d'adapter un petit peu le jour des courses. Donc en fait, le jour des courses, on fait un peu des testings et puis on essaie d'optimiser au mieux. Donc ça fait déjà une différence. Après, au niveau de l'électronique, nous, on utilise l'électronique d'origine que tout le monde a sur sa Honda. Et puis les mecs, la moto, elle s'allume, ils branchent l'ordinateur et puis ils essayent d'ajuster au mieux. Donc voilà, ça, c'est toutes les différences. En fait, c'est plus qu'à des pourcents, ça se joue à 1, 2%, mais le niveau est tellement homogène que si on peut gagner 2% sur le mec qui est devant, ben, on arrive à le dépasser, quoi.
Ouais, c'est plus comme il y a beaucoup d'années où un très bon pilote, peu importe la moto qu'il avait, il pouvait gagner. Maintenant, ça se joue un petit peu comme
Alors,
en F1, MXGP. La moto, il fait quand même beaucoup.
bah, j'ai envie de démontrer que non, parce que nous, on est vraiment avec ben, voilà, des petits budgets, une moto qui est vraiment pas loin de la moto standard. Et puis à Arco, je suis parti deux fois dans les six. La première manche, pendant 25 minutes, j'étais quatrième. Il y avait trois motos d'usine devant, trois motos d'usine derrière moi.
On te
Donc ouais,
sentait bien, on te sentait bien d'ailleurs sur cette course, on te sentait à l'aise, alors que le
Ouais.
circuit, enfin nous quand on regarde, il nous donne vraiment pas envie. Et c'est vrai qu'on
Non,
te
il donne.
sentait, on te
Non, il donne
sentait
pas envie, le
bien
circuit.
efficace. Ouais.
Ouais. Ouais, bah justement, c'est là que je montrais qu'on a quand même ces capacités de jouer ici. Donc voilà, malheureusement, et ben en fait, ça revient un peu sur le sujet qu'on a parlé avant avec l'enchaînement des courses. Et ben en fait, le week-end d'avant, c'était la Sardaigne. Et puis, c'était vraiment, vraiment dur. Et en fait, toute la semaine, j'ai eu de la peine à récupérer. Et puis, pour moi, ben en fait, je me sentais super bien pendant 25 minutes. Et puis, les 5 derniers tours, j'ai explosé complet. Alors que normalement, les manches de 30 minutes sur la terre, j'arrive facilement à les tenir. Ben pour moi, j'ai mal récupéré de la Sardaigne. Et puis c'est pour ça que j'ai pas réussi à garder ma quatrième place.
On va relever quelques questions. On n'a pas relevé de questions sur le live. Il y en a sur Facebook et sur YouTube. Pour revenir vite fait au Supercross, on a Rodolphe Beau qui nous dit que Prado a fait les US. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait du calendrier chargé. Qu'est-ce que tu penses de cette performance de Prado aux US et de ses performances en suivant sur la MXGP?
Ouais, c'est cool, j'ai suivi ça de près parce que vu que c'est un Européen, ben on veut que les Européens brillent aux US, donc c'était cool de voir là-bas. Ben, moi, je m'attendais à ça, je m'attendais à ce qu'il claque un all shot et puis qu'il soit voilà, entre la 5e et 10e place parce que ben, le mec il a jamais fait de course en supercross, et puis là il attaque pas avec les 2,5, il attaque direct avec les 4,5. Donc c'est un niveau de malade. Ouais, là je pense avec un bon hiver en supercross, il va pouvoir se battre avec les mecs de devant. Donc ce sera intéressant à voir. Et puis par contre, on peut voir que le supercross lui a apporté vraiment beaucoup de technique. En fait, encore en plus, il a déjà une technique de fou, mais là il arrive vraiment à avoir un truc en plus que les autres. Qu'on fait du sable tout l'hiver ou du cross tout l'hiver, quoi.
On a Alain qui nous dit dommage tu sois pas là à Beach et Hello qui renchérit dessous qui dit l'élite en même temps que le MXGP c'est nul. Donc c'est ouais, je savais pas qu'il y avait une concurrence de date, donc du coup
Ouais.
tu vas louper Beach.
Ouais, alors bah déjà, Beach, bah, je les salue tous au du club parce qu'ils m'aident. c'est déjà la deuxième année qu'ils m'aident. Donc ça m'embête vraiment de ne pas pouvoir rouler devant mon club. Et puis en tout cas, j'espère qu'il y aura vraiment du monde qui va aller voir cette course parce que c'est vraiment un beau terrain. Et puis ouais, une bonne ambiance. J'espère que le public sera au rendez-vous. Et puis c'est nul, MXGP en même temps que l'élite. Ouais, ça m'embête aussi. Surtout, ben, cette année, j'en loupe deux. Ben, c'est comme l'année passée, j'ai été titré, mais j'ai aussi loupé deux courses. Donc ça m'embête. Ça m'embête de louper ces courses parce que ben, j'ai envie de décrocher mon titre à 100%. Mais après, ben, ça nous permet de faire le mondial et puis faire le championnat de France. Ça permet au public de voir des pilotes de Grand Prix rouler en France. Et puis ben, voilà, pour les sponsors aussi, ça permet de jouer sur les deux championnats. Donc c'est un peu, ouais, ça c'est un sujet, c'est vraiment, c'est pas un sujet facile, mais voilà, l'idée est bien, mais voilà, ça fait un peu,
Oui, comme
c'est un
tu
peu
dis,
bizarre.
après on se plaint tous de quelque chose. On se plaint de pas
Voilà, on
avoir de
se plaint
pilote de
toujours.
mondial, mais quand on en a et qui pique les titres, donc ouais, oui,
Voilà.
ouais, c'est exactement ça. Donc non, mais dans tous les cas, je pense que tout le monde est content de te voir et en mondial et à l'élite. Et on aimerait avoir la plupart des pilotes du mondial à l'élite, et que le niveau augmente et que les
Ouais.
partenaires arrivent. Ça serait le mieux.
Quel message tu
Ça, c'est
pourrais faire
sûr.
passer à Romain Fèvre et à d'autres pilotes français pour qu'ils fassent le championnat de France élite, pour les motiver à venir?
Qu'est-ce que je pourrais dire?
Qu'est-ce qui est vraiment bien?
Il vient de dire qu'il avait trop de courses.
Ouais, bah, c'est juste ça en fait,
Ouais, c'est ça.
c'est ça le problème. Tout le monde, on signe tous les Grands Prix, c'est pour faire le championnat du monde. On signe tous les contrats, c'est pour faire le championnat du monde. Si on va se blesser sur une course qui n'a pas d'enjeu, ben c'est compliqué pour le team. Alors, ben si je prends comme Romain, lui, il fait le championnat hollandais, mais c'est que trois ou quatre courses. Là, maintenant, c'est déjà terminé. Ouais, je sais pas, c'est. Là, comme un mec comme Siver, lui, il faut aucune course. Il fait une course préparation et puis c'est tout. Bon, c'est tout le temps un peu compliqué ce sujet avec les teams. Alors, justement, les teams privés comme Jos, où il y a des teams italiens, ben, ils sont obligés de faire les championnats nationaux pour que les sponsors soient contents. Mais les gros teams, les teams d'usine, tout ça, c'est engagé sur le mondial, tu fais que le mondial. Puis après. De l'autre côté, tu es payé que pour faire le mondial, tu n'es pas payé pour aller faire des courses à droite à gauche.
Est-ce que tu penses que justement ce qu'a fait Prado cet hiver, ça a fait changer les mentalités un petit peu?
Non, je pense pas, parce que Prado, en fait, il a été là-bas, c'est pour son contrat pour l'année prochaine. Et puis, il a réussi son coup. On sait dans le milieu où c'est qu'il a signé. Donc, je pense que c'était plus une chose, c'était pour préparer le futur qu'il a fait ça.
Il a bien fait, ouais, du coup.
Donc, ouais, il a bien fait. Mais du coup, voilà, ça a été du win-win parce qu'il a pu progresser aussi sur son pilotage et tout.
Allez, j'ai une dernière question. Après, on va te libérer. Valentin avait dit 30 minutes et on a notre deuxième invité qui patiente. Comme on en profite, hein, qu'on a un Suisse avec nous, parce que le
Bah oui.
second invité sera français. Quelle est la situation du motocross en Suisse? Quel est le niveau du championnat? Est-ce que tu peux nous en parler de manière générale, toi qui as beaucoup évolué en France quand même dans ta carrière?
Ouais, alors, quelle situation du motocross en Suisse? Le motocross en Suisse, ça se porte plutôt bien. On va dire, il y a le championnat national, et puis après, il y a trois championnats, on va dire, amateurs à côté. Et en fait, de mars à fin septembre, il y a des courses quasi tous les week-ends. Donc, pour faire de la moto, faire des courses, c'est vraiment possible. Puis c'est avec ça que j'ai grandi. Moi, j'ai fait ma carrière là avec ces championnats. Après, au niveau du niveau, ben, ce qu'on s'est aperçu, c'est que tous les bons pilotes suisses, c'est les pilotes qui ont été roulés à l'étranger dès qu'ils sont jeunes. Et puis donc voilà, ça veut dire, est-ce que le niveau en Suisse n'est pas très élevé? Je sais pas, c'est un peu difficile. Je sais que Voilà, on prend un Tonus, ben il a roulé, il avait fait le championnat de France, le mini-vert. Siver, lui, il roulait en Allemagne. Puis moi, j'ai un peu joué sur les championnats à droite à gauche. Donc, ouais, je pense qu'il faut sortir du pays pour augmenter son niveau.
Très bien, ben merci. Merci pour cette analyse du coup du motocross en Suisse. Merci pour ta présence ce soir. On te souhaite une
Ouais.
bonne saison, bien chargée en tout cas. Mais bon, c'est bon, tu as fait déjà une bonne petite partie et ça se passe plutôt bien.
Ouais,
Donc,
on a
la
déjà
même
fait un
chose pour le reste.
tiers. On a déjà fait un tiers pour de la saison. Et puis, ouais, il y a encore des belles choses à faire. Mais en tout cas, merci de l'invitation. C'était cool. Et je vois, ça fait déjà pas mal de temps qu'il y a tout le temps du monde qui met mon nom. Ouais, il faudrait faire
C'est vrai.
avec Valentin et tout. Donc, c'est cool. Merci de cette invitation.
Ouais, merci, merci à toi en tout cas, c'était un plaisir.
Merci Valentin, salut. Allez, on va accueillir notre deuxième invité, Blaise, qui attend, je m'en depuis tout à l'heure. Hop, on va le faire rentrer tout de suite. C'est Tom Guyon. Comment ça va, Tom? Depuis ce retour
Ça
à la
va et
maison,
vous?
j'ai envie de dire, avec Valentin Teillé, tu vas avoir plein de choses à nous raconter, je sens, ce soir.
Ouais, il y a pas mal de choses, hein. Non mais ouais, ça va, ça se passe bien. On a commencé le championnat et tout, donc c'est cool. Hein.
Ouais, c'est bon, cet hiver s'est bien passé pour toi?
Hiver, ouais, un petit hiver quand même. Parce que bon, j'ai commencé mi-janvier. Donc c'était plutôt tardif quand même. Mais bon, il le fallait parce que bah, j'ai voulu me remettre correctement de mon genou. Valentin était vraiment. Il a compris que voilà, il fallait que je prenne le temps de me remettre correctement. Il a été conscient des choses et puis on a bien fait parce qu'au final, je suis plus embêté avec ça. Et voilà, c'était quand même assez court, mais je commence à reprendre mon niveau petit à petit et la confiance aussi avec, quoi.
Physiquement, tu es à 100% là, actuellement?
Physiquement, je me sens bien. J'ai plus de douleur que ce soit au genou ou même je me sens bien. Je suis fort physiquement. Là-dessus, il n'y a pas de problème. On bosse bien avec Valentin, ça c'est top. On fait vraiment le maximum pour être en forme. Et puis voilà, après le niveau, mon niveau actuel sur la moto, j'ai besoin encore de retrouver un petit peu de confiance et de vitesse pure. Mais on y va petit à petit et on bosse ouais, vraiment pour atteindre le meilleur niveau, quoi.
En ce moment, là, c'est la période des courses, hein, on va dire. Vous bossez quoi? Vous êtes sur quelle partie? J'ai vu que vous étiez parti un peu en Espagne. Vous bossez plus sur la vitesse, la technique, le physique. Vous êtes sur quoi?
Alors, pour ma part, on a beaucoup repris la technique avec Valentin cet hiver. Et même actuellement, il veut vraiment qu'on bosse sur ma technique. Parce qu'il faut savoir que j'ai quand même une bonne base physique. Je me porte plutôt bien. Voilà, je tiens correctement mes manches sans trop de difficultés, mais avec une grosse intensité. Mais on est vraiment, avec Valentin, axé pour moi sur la technique et sur l'intensité, l'agressivité. Après, c'est pour ma part. Je pense que pour certains pilotes, c'est un peu différent. Bon, on rentre dans une période où là, on va enchaîner pas mal de courses, donc on va calmer aussi un petit peu au niveau du roulage, ce qui est normal, quoi.
T'as besoin de rouler, toi, beaucoup, en semaine. Tu vois, Valentin, juste avant toi, nous disait que bah, lui, voilà, là, c'est la période des courses. Limite, il se repose toute la semaine. Les Grands Prix et l'élite, ça lui suffit. Toi, tu es comment? T'as besoin de rouler?
Ouais, moi, clairement, je suis quelqu'un, j'ai besoin de faire pas mal de motos. J'ai besoin de faire. On va dire, je fais pas beaucoup des gros roulages, mais je fais plein de petits roulages. Par exemple, ouais, je fais 1 heure, 1 heure et quart, ou ça dépend des fois, 1 heure et demie de moto. Mais par exemple, je vais essayer de le faire assez régulièrement pendant la semaine, en fonction, voilà, de comment on s'adapte entre les courses. Forcément, si on est entre deux courses, je vais pas faire 5 roulages. Mais dès qu'il est possible de rouler, que je peux faire un petit peu de moto, etc., j'aime bien prendre du feeling. Et ouais, je suis quelqu'un, j'ai besoin de faire assez de moto quand même. Je pense, ouais, entre deux courses, je vais rouler deux fois, quoi, par exemple. Ouais. Deux, trois fois, si. Bah, trois fois, ça fait un peu beaucoup, mais des fois, ça peut arriver.
Et tout à l'heure, Valentin, qui est un pilote d'expérience, qui est là depuis un moment, toi, un pilote un peu plus jeune, lui, il nous disait que avec Yves Demaria, bah, des fois, il lui dit, bon, Yves, je suis fatigué, donc aujourd'hui, il faut que mon corps se repose. Toi, est-ce que ça t'arrive? Est-ce que tu as cette communication avec Valentin où tu dis, bon, là, aujourd'hui, là, c'est limite, tu as bout, est-ce que je peux me reposer ou pas?
Je commence à le ressentir honnêtement, voilà, parce que je commence à le l'autre jour, ouais, j'en ai parlé un petit peu avec Valentin. Je suis très travailleur, on va dire que j'ai pas peur de travailler. Des fois, je vais même un peu au-dessus de mes limites. C'est pour ça aussi, je pense, que je me suis blessé tant ces dernières années, c'est que justement, je voulais trop en faire, toujours, toujours trop en faire, et je m'écoutais pas assez, justement.
Et je pense qu'aujourd'hui, quand on monte sur la moto, on a besoin d'être frais et de se sentir, d'être en pleine possession de ses moyens, voilà, d'être à 100%, de pas être fatigué, parce que quand on est sur la moto, vraiment, on a besoin d'être vraiment concentré et de, parce que bah, forcément, on prend des risques à chaque fois qu'on monte sur la moto et qu'on puisse faire notre entraînement à 100% sans se cramer à côté physiquement. Donc oui, ça m'est arrivé déjà pendant, voilà, c'est pas souvent, mais j'ai dit à Valentin, là, je me sens un peu à la fin de l'entraînement, quoi, je sens un peu fatigué, est-ce qu'on peut adapter ou quoi? Mais oui, ça peut arriver, après, c'est assez rare quand même.
Qu'est-ce qui a changé dans les méthodes de Valentin Teillé par rapport à tes premières années avec lui?
Ce qui a changé, bah, il a plusieurs années d'expérience maintenant en tant que coach. Maintenant, après, sa méthode de travail, j'ai envie de dire, elle reste en globalité pas similaire, mais elle est plus professionnelle, etc. Mais sa méthode de travail est vachement basée sur la technique, sur l'intensité, dans le pilotage, etc. Et c'est quelque chose que moi, dont il m'apporte énormément, ce dont j'ai besoin et qui me fait énormément progresser. Je l'avais perdu un petit peu ces dernières années. À vouloir, voilà, j'ai bossé plus sur ma technique et là, le fait de retourner avec Valentin, c'est ce qui m'apporte vraiment. J'ai directement ressenti les bienfaits et ça me, ouais, c'est, on bosse pour ma part, ouais, vraiment sur la technique et sur l'aisance sur la moto, la mobilité. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on peut rouler vite en sécurité. Si on est à l'aise techniquement, qu'on bouge sur la moto, on peut aller vite tout en étant en sécurité, quoi.
J'ai l'impression qu'il y a une différence. Tu parles beaucoup de technique et quand on faisait des interviews il y a 4, 5, 6 ans, les pilotes de haut niveau parlaient beaucoup d'enchaîner des manches, des chronos, des manches, des chronos. Et on avait beaucoup qui me disaient non, la technique, voilà, on n'en fait plus trop. Et j'ai l'impression que depuis qu'on a aux avant-postes des Lorenz, des Prado, même des Geyser qui ont une technique, on va dire, vraiment fine, quasi parfaite, j'ai l'impression que le coaching, même au niveau plus bas, hein, même en ligue et tout, c'est adapté à rouler sur la pointe des pieds, essayer d'être plus fin, essayer de scrubber, mais être pas faire n'importe quoi. Est-ce que toi, tu le ressens aussi à ton niveau, ça? Cette différence, on va dire, de coaching avec Valentin et même avec les autres?
Ouais, clairement. On voit vraiment que tout le monde aujourd'hui essaie de bosser sur sa technique. Bah, quand on voit un Lorenz ou un Prado, aujourd'hui c'est clairement même un Roczen, hein, il ne faut pas l'oublier, c'est clairement des références, hein, en termes de pilotage technique. Ils sont très très pointilleux et ils sont assez impressionnants, même c'est d'une facilité. Mais je pense que voilà, ils ont fait forcément, ils font des manches, beaucoup de manches, il faut en faire, mais je pense qu'il faut. Il faut développer sa technique, c'est le plus. Ouais, j'ai envie de dire, c'est 80% du travail aussi, parce que si on est bon techniquement et qu'après les manches, j'ai envie de dire, c'est le plus facile à faire. Les manches, voilà, faut juste donner à 100% et envoyer les tours. Mais développer sa technique, ça va permettre qu'on puisse aller plus vite et que, voilà, faire la différence sur la piste, parce que quand une piste, elle est défoncée et que techniquement, on est à la ramasse, ouais, ok, physiquement, mais on peut pas. On peut, au bout d'un moment, même si on est le meilleur physiquement, je pense que si on a vraiment zéro technique sur la piste, comme une piste sur l'Hommel ou quoi, que c'est des voilà, tout le monde est mort physiquement, c'est la technique, je pense, qui va faire un petit peu la différence à la fin, quoi.
Ah, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça faisait longtemps, enfin moi en tout cas, je trouve que ça faisait longtemps que ça n'avait pas évolué, on va dire, tout ce qui était coaching et tout. Depuis l'époque Stewart, où on s'entraînait tous à faire des scrubs parce qu'on le voyait faire un scrub, il y a eu des petites évolutions comme ça, mais c'est vrai que ça faisait un moment, je trouve, qu'on laissait un petit peu tomber la technique au profit du physique, des chronos, des départs, de tout le reste. Et je trouve que c'est intéressant de revenir aux fondamentaux et même au haut niveau comme ça. Et toi, justement, tu ressentais le besoin, ça, de travailler ta technique ou pas?
Moi, clairement, ouais. Clairement, ouais. J'ai fait énormément de manches ces dernières années et je me suis beaucoup blessé, malheureusement. Et je pense que parce que j'ai mis un peu de côté cette technique et j'ai vraiment bossé, 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 bossé à faire que des manches et vraiment faire les programmes qu'on me disait et trop mis sur le côté, justement, cette partie technique. Et je pense que du coup, je roulais moins en sécurité, entre guillemets. Voilà, j'étais plus bourrin. Et alors, quand ça passe, mais des fois, voilà, ça peut ne pas passer. Et puis, au final, si on est un peu plus fin techniquement, et ben, ça va tout aussi vite et c'est moins, entre guillemets, dangereux. sur la moto et on peut faire aussi plusieurs passages pareils, quoi. Si un pilote qui n'est pas technique, il va faire un passage sur 10 qui est correct, alors qu'un pilote technique, il va en faire voilà, quasiment la totalité à la même vitesse, quoi. Donc, c'est pour ça que ouais, je pense clairement que c'est très bien que tout le monde aujourd'hui rebosse la technique, etc. Parce que on a besoin de ça, ouais, clairement, en motocross, c'est important.
C'est quoi la différence entre un pro comme toi qui travaille la technique et un amateur? Tu vois à quoi ça ressemble des stages pour les pilotes amateurs qui travaillent essentiellement la technique dans les stages, et quelqu'un comme toi qui est professionnel, qui connaît vraiment toutes les techniques de base, mais qui va faire de la technique un petit peu plus poussée. Est-ce que tu peux expliquer la différence tu vois, avec un Valentin Tellier qui lui donne des stages aussi à des amateurs, qui donne des stages d'initiation même à des gamins. Et mais aussi à des pilotes comme toi où c'est beaucoup plus pointu. Est-ce que tu peux expliquer les différences?
Bah, la différence, bah déjà, du coup, j'ai pu faire quelques stages cet hiver avec Valentin dans le, en tant qu'animateur. Donc, j'ai pu voir aussi ce que ça faisait d'être de l'autre côté. Et c'est intéressant. Alors, la différence, je pense qu'un amateur, on a vraiment besoin de lui apprendre le geste technique en lui-même. Et je pense qu'à partir d'un moment, un pilote pro, tous les pilotes, à partir du moment qu'on arrive voilà, en championnat du monde ou quoi, tout le monde est bon techniquement, un minimum, tout le monde sait faire les choses. Et je pense que c'est moi souvent Valentin, il me dit tu sais le faire, mais il faut des fois il faut le répéter et puis le mettre en application. Et il me dit en gros là-bas tu pourrais faire ça parce que je le fais des fois il y a naturellement, je le fais pas alors que je devrais le faire. Je suis capable de le faire, mais il a besoin de m'indiquer que là-bas il faudrait essayer de le faire ça comme ça. Et je pense qu'un alors un pilote amateur, on a besoin de lui apprendre à le faire ce geste. Et nous, à partir du moment où voilà, tout le monde sait faire ce geste-là, cette technique-là, on a besoin de le faire avec une certaine vitesse aussi. Parce qu'il faut savoir, voilà, c'est la différence entre un pro et un amateur, c'est qu'un amateur, il va peut-être voilà, arriver à faire le geste, mais il faut arriver à le faire aussi plus rapidement. Si faire un cabrage, voilà, bah on peut faire la même chose, mais en allant beaucoup plus vite ou moins vite, quoi. Et c'est un peu la différence entre l'amateur, il a besoin de décomposer le geste, de bien le faire correctement avant d'instaurer de la vitesse, quoi. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'en faire de la technique jeune pour après aussi développer sa vitesse, quoi.
Je vais afficher juste le classement de l'élite. Toi, est-ce que tu as eu justement, quand tu as signé dans le team, des objectifs par rapport au classement ou pas du
Il
tout?
est très objectif, hein, mais ce sera
Ouais,
peut-être un peu
ce
trop
soir,
fort
je suis
maintenant ces
objectif.
derniers
Ben,
temps.
on
Tu
va
as
partir
fixé
sur
des
les.
objectifs à tes apprenants.
Ouais,
Ce
parce
sera
que moi, j'ai des
objectif.
gros objectifs cette année, c'est pour ça.
Non, alors clairement, oui, on a des objectifs. Hein, je ne vais pas partir pour une saison sans objectif. On vise le titre avec Valentin, ça c'est clair. Maintenant, il était conscient, enfin, il est conscient que je revienne de blessure, etc. Donc, on se doutait bien que les premières courses n'allaient pas forcément exploser tout de suite. On s'y attendait un petit peu. Voilà, les petits problèmes d'avant-bras, etc. C'est de retrouver la confiance en course. Mais on a toujours pour objectif d'aller chercher le titre et j'y crois. Bien sûr que j'y crois à 100% parce que je retrouve confiance et je retrouve ma vitesse au fur et à mesure des épreuves et je sens qu'on est capable de se battre. Pour jouer la gagne. Voilà, maintenant, il y a les pilotes devant qui ont pris un petit peu d'avance, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans un championnat. J'ai envie d'y croire jusqu'au bout, jusqu'à la dernière manche, jusqu'au drapeau à damier. Donc, ouais, on va se battre jusqu'au bout pour le titre. Ouais.
Actuellement, tu dirais qu'il te manque quoi? De la vitesse, du physique, ce serait quoi pour jouer devant, on va dire, quasi à toutes les manches?
Pour jouer devant à toutes les manches, alors oui, il me manque forcément un petit peu de vitesse. Enfin, un petit peu. Voilà, par exemple, en deuxième manche, j'ai réussi à avoir le meilleur temps en course, mais je pense que j'ai besoin d'un peu plus, voilà, d'être, comment dire, parce que là, par exemple, ce week-end, j'étais assez coincé en première manche, j'avais mal au bras, j'ai pas réussi à me libérer, alors que deuxième manche, j'ai réussi clairement à me libérer, à rouler à mon niveau. J'ai pas réussi à doubler comme je l'aurais voulu parce que je manque encore un petit peu d'agressivité dans mon pilotage pour faire des dépassements. Mais ouais, un petit peu de vitesse, un petit peu de confiance. Qu'est-ce que je pourrais. Ouais, c'est un petit. Un manque de course encore, hein, je pense. Mais ça va vite revenir. Je pense que d'ici les prochaines épreuves, là, ça va se voir encore que je vais passer encore un step. Là, et clairement, j'ai fait que passer des steps dernièrement. Donc. On est sur la bonne voie et il manque pas grand-chose pour aller chercher la gagne et on compte bien y arriver pour Beach, quoi.
Comment t'expliques tes blessures des années précédentes? C'était de la précipitation, c'est quelque chose que tu avais du mal à encaisser, à te dire, ah, là je suis moins rapide que les autres aujourd'hui, ça venait de quoi, tu penses?
Ouais, il y a une part de précipitation parce que j'ai toujours, bah, je suis compétiteur, hein, donc forcément on a envie de jouer la gagne. Je pense que j'ai pas su gérer mon corps comme il faut aussi. En termes de préparation physique, je pense que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai voulu trop en faire tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et je me suis retrouvé, j'étais tout le temps, je montais sur la moto, j'étais fatigué. Et quand le corps est fatigué, quand on monte sur la moto, ben, dès qu'on tombe, on se blesse beaucoup plus facilement. Et donc, je pense qu'il y a une grosse part de ça. Et après, voilà, j'ai fait, comment dire, j'ai voulu toujours aller chercher des meilleurs résultats. Et je pense que je me suis un peu précipité dans mes résultats et j'ai pas construit mes années comme j'aurais dû le faire. Malheureusement, voilà, j'ai eu des blessures qui étaient chiantes et très longues. Et j'ai voulu revenir à chaque fois très vite de ces blessures. J'ai tout fait parce que j'ai tout fait pour travailler dur pour revenir très vite. Et j'ai enchaîné, 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 enchaîné. Donc c'est pour ça que là, cette dernière blessure, j'ai un peu retenu la leçon, j'ai pris le temps comme il fallait et je me reconstruis petit à petit. Je ne veux pas refaire tout le temps les mêmes erreurs. Et voilà quoi, maintenant, prendre le temps de faire les choses et de me construire correctement pour éviter de retomber dans cette spirale. Avec beaucoup de blessures, quoi.
Et on sait que Valentin Théier, bon, il t'a déjà initié du coup au coaching moto, il t'a fait faire ça avec lui. On sait aussi qu'il est assez présent sur les réseaux sociaux avec la partie vidéo, etc. Est-ce que c'est un souhait de sa part de que tu participes à ça et que tu sois actif dans l'évolution des réseaux sociaux du team ou pas du tout? Il te dit concentre-toi sur ton pilotage et fais ce que tu sais faire.
Ouais, ça fait partie de la chose, hein. Je pense que c'est normal de participer. On a des partenaires aujourd'hui qui nous suivent, qui nous permettent de réaliser une saison. Et heureusement que ces partenaires sont là. On doit mettre en avant ces partenaires, ce qui est normal. Ça fait partie du jeu aujourd'hui. Il y a le côté résultat, ce qui est indéniable. On pourra jamais l'enlever. Mais il y a la partie aussi, communication qui rentre énormément en jeu maintenant aujourd'hui. C'est quelque chose qui est indispensable, que Valentin aujourd'hui met vraiment en avant les partenaires, les pilotes, la structure, tout. Et il m'apporte aussi là-dessus, il m'aide, il me dit voilà, faut que. Parce que c'est vrai que je suis pas non plus un adepte, je poste pas énormément et il me pousse un petit peu des fois à poster un peu plus, etc. Et au final, c'est vrai que même, voilà, c'est toujours sympa de poster quelques petites vidéos, des photos, machin. Et les partenaires sont contents. Et nous aussi, quoi, c'est important de faire développer aussi les réseaux, quoi. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir avoir du budget et pouvoir faire les saisons dans de meilleures conditions, quoi.
On a eu plusieurs fois la question en commentaire, on l'a eu sur YouTube, quelle est la différence entre la KTM et la GazGaz? Et Benjamin, qui est un petit peu plus généraliste
La
et qui
couleur.
demande, qu'est-ce que tu penses de la GazGaz du team?
La différence entre la KTM et la GazGaz, j'ai envie de dire, ouais, simplement la couleur, quoi, et puis quelques petites pièces, mais pas grand-chose. Et la GazGaz du team 737, ben, c'est une bonne moto. Alors, on est sur une base similaire à l'origine, mais c'est une bonne moto. J'avais pas roulé sur les nouveaux cadres, et c'est vrai qu'ils sont vraiment bien, plus facile à tourner, j'ai envie de dire, à virer, ouais, un cadre un peu plus haut. Et non, cette année, on a quand même une bonne moto qui est bien suspendue. C'est Jérôme Emery de chez HRS qui me fait les suspensions. Donc, on a une très bonne base au niveau des suspensions. Et puis voilà, quoi, on fait. Valentin a mis des petites pièces pour que voilà, je sois en sécurité sur la moto et que elle fonctionne correctement, quoi.
Et du coup, vous avez prévu quoi cet hiver avec le team? On va dire la partie élite. Est-ce que après il y aura du supercross? Est-ce qu'il y aura du sable? On sait que Valentin, bon, c'est plus supercross que le sable, mais est-ce que toi tu vas participer?
Alors, ouais, donc là, on finit le championnat de France élite. On a la partie Supercross. Donc là, même demain, je vais rouler en Supercross. Je vais commencer un petit peu feeling Supercross. Mais ouais, ça va être l'objectif où on va faire vraiment course élite et Supercross. On va faire deux petites courses aussi. Enfin, on va faire quelques Grands Prix. Et donc le Grand Prix de France, notamment à Saint-Jean-d'Angély. Hein. Et puis deux
Ton
petites
club.
courses aussi là qu'on. Ouais, c'est mon club, ouais. C'est mon club, ouais, Saint-Jean. Donc j'espère que ça va être une belle épreuve. Normalement, ils font tout ce qu'il faut pour que le Grand Prix se passe bien. Voilà, je roule bien en général là-bas en plus. Et puis ouais, c'est un super club motivé qui fait vraiment. Il y a toujours du monde, etc. Donc ouais, j'espère vous voir nombreux là-bas de toute façon. Et puis ouais, on va faire aussi, on a un projet ouais, de faire deux courses. Enfin, ça sera un projet qu'on va, je pense, bientôt vous révéler ouais, pour faire deux petites courses par
Allez,
là-bas.
balance l'exclu là, Jérémy se réflexion, personne ne nous
Deux
écoute.
petites courses aux US, du coup.
Non, mais je pense que ça va être dit bientôt, donc je ne veux pas balancer encore avant, mais ouais, on va se faire plaisir. Ouais.
Déjà que tu te fais engueuler parce que tu communiques pas assez sur les réseaux sociaux, si en plus, quand tu communiques, tu le fais mal, là, tu vas te faire défoncer.
Ouais, c'est clair. Non, mais ça va être un truc qui va être annoncé bientôt et ouais, on va balancer ça bientôt, je pense.
On a Laurent encore qui pose une question qui dit que tu as fait 15e du MX2 en 2022. Espères-tu faire des courses mondiales? Donc tu l'as dit, Grand Prix de France, mais est-ce que à moyen terme, tu aimerais revenir à mondial?
Alors, 15e, ouais, sachant que j'ai loupé pas mal de courses parce que j'étais blessé, j'ai loupé 5 ou 6 courses au total avec mes blessures. Est-ce que j'aimerais retourner en mondial? Oui, oui et non. J'ai envie de retourner en mondial, mais pas pour faire 15e. Parce qu'il faut savoir, ouais, si, faut avoir la structure qui va avec, etc. Parce que voilà, faut se sentir bien avec la moto, etc. Parce que ça va très vite aujourd'hui en Grand Prix. Mais oui, si j'ai une bonne opportunité, bien sûr que je retourne en Grand Prix. Mais là, on va faire quelques-uns cette année déjà avec Valentin. Et je suis très motivé à l'idée de les faire déjà avec Valentin parce que je pense qu'on peut se montrer devant avec la gaz-gaz. Et donc après, voilà, je ne sais pas encore ce qui est fait les années à suivre, mais voilà, je ne me prends pas la tête. Je veux vraiment profiter de ce que je fais en ce moment. Et après, on verra par la suite comment les ouvertures se font.
C'est fou comme on a l'impression que quand on parle aux plus jeunes qui sont pas encore allés au mondial, les plus jeunes vont dire oui, moi il faut que j'aille au mondial, j'ai vraiment envie d'y aller. Et ceux qui y sont déjà allés disent j'y vais, mais si j'ai la bonne structure. Est-ce que tu arrives à remarquer ça? Je pense que le Tom d'il y a peut-être 5-6 ans, ou le Tom qui avait 13-14 ans, nous aurait dit oui, je veux aller au mondial MX2, c'est sûr et certain, je veux y aller. Et tu as vu maintenant, est-ce que tu arrives à remarquer un petit peu les différences et le recul que les pilotes prennent? J'ai l'impression que ceux qui ont déjà fait des courses mondiales se rendent compte qu'en fait, c'est pas si flamboyant que ça dans tous les sens.
C'est pas comme tu dis, c'est pas si flamboyant que ça. C'est quand on y est, on se rend compte un petit peu comment c'est. Voilà, c'est aujourd'hui de gagner sa vie en Grand Prix, c'est pas simple, hein. Il faut faire des résultats, il faut être devant. Quand on est vraiment devant, on gagne bien sa vie. Quand on est au. Après le top 5, ça devient compliqué. Donc, quand on a une moto privée, etc., d'accrocher des top 5, c'est pas simple. Régulier, je parle. Maintenant, voilà, c'est un choix. Moi, je ne veux pas payer pour aller faire de la moto. C'est pas mon objectif. Donc, clairement, si je vais en Grand Prix, c'est parce que j'ai la bonne opportunité et que voilà, il y a aussi, que je peux gagner ma vie aussi pour aller en Grand Prix, quoi, parce qu'on prend beaucoup de risques, c'est beaucoup d'implications, beaucoup de sacrifices. Donc voilà, c'est important que ça suive aussi là-dessus.
On a eu plusieurs fois la question, c'est marrant ça, sur Instagram, on l'a encore là sur YouTube. Est-ce que tu te sens bien avec Valentin, le team 737?
Bien
Les gens
sûr,
sont inquiets.
franchement, ouais.
Est-ce que Valentin t'a fouetté quand t'es revenu? T'as dit, il fallait pas partir. Ouais.
Non, franchement, j'adore. Franchement, ça se passe vraiment bien. On a une super entente, une super équipe. Et c'est vraiment bien. Je me sens vraiment bien. Je prends vraiment plaisir. Chaque fois que je monte sur la moto, j'ai le sourire. Que je vais à la course, je suis content. Et en fait, je me rends compte, ouais, là, je roule en championnat de France, mais vraiment, je me fais plaisir sur la moto. Et c'est ce que je recherchais parce que j'avais perdu un petit peu ce plaisir ces dernières années. Et là, vraiment, moi, je suis content de là où je suis. Voilà, quoi, comme je disais, j'ai le sourire quand je monte sur la moto et c'est ce que je voulais retrouver. Voilà.
Pour le ton contrat, si on parle rapidement de ton contrat avec le team, ça se passe comment? Tu as signé pour 1 année, 2 années, c'est renouvelable, comment ça se passe pour toi?
Ouais, j'ai signé pour 1 année. Voilà, après, je sais pas. Bon, pour l'instant, ça se passe super bien avec le team, donc avec Valentin, etc. Donc, pour l'instant, voilà, je sais pas comment est fait l'avenir. Donc, je verrai bien. Je vais juste, comme j'ai dit avant, profiter de cette année et puis après, on verra comment ça se déroule après. Mais je veux pas me prendre la tête avec ça pour l'instant, quoi.
Je ne veux toujours pas nous dire
Après.
les 2 courses que vous allez faire, juste pour la surprise. Toujours pas.
J'ai peur que si je le dis, qu'après ils me disent ah, t'as balancé ça avant, machin, mais j'ai pas.
Ouais, ça fait 1 an qu'il tourne une vidéo pour annoncer ça, et du coup.
Ouais, c'est clair, je veux pas non plus tout gâcher, quoi.
Mais dans 10 minutes, à force de parler, tu vas le dire.
Ouais,
Non,
on va t'avoir, on va
non,
t'avoir.
non, les gars, non, non, faut pas abuser.
Comment ça se passe les entraînements? Là, ça fait plusieurs lives qu'on dit en France maintenant, on voit que quand même dans le sud-ouest, ça commence à être un peu tu sais, la Californie de l'Europe, quoi, où pour s'entraîner, ça commence à être pas mal avec des complexes comme Magesque et beaucoup, beaucoup de pistes qui sont ouvertes la semaine et c'est forcément un peu ce que vous recherchez, vous, les pilotes pro. Aujourd'hui, toi, là où tu es basé, est-ce que tu es satisfait pleinement ou est-ce qu'il faut bouger, il faut faire beaucoup de kilomètres pour s'entraîner?
Alors, oui et non. Enfin, ouais, c'est vrai que dans les Landes, commence à y avoir beaucoup de pistes. Ça commence à être vraiment pas mal. J'ai pu y aller un petit peu. Et voilà, il y a l'arrosage, etc. Et autour de chez moi, voilà, on a quelques pistes quand même qui nous ouvrent en semaine. On a la chance qu'ils nous ouvrent en semaine. C'est pas simple, hein, c'est pas toujours simple d'avoir des pistes ouvertes en semaine. Voilà, forcément, parce que bah, c'est il n'y a pas quelqu'un qui va tenir tout le temps sur le terrain, etc. Parce que bah, c'est pas des clubs super gros, on les comprend. Maintenant, ouais, c'est sûr que quand on peut avoir la possibilité de rouler tous les jours en semaine, bah, c'est forcément un confort. Notamment ouais, quand on descend dans les Landes, voilà, quand il y a l'arrosage, que la piste est ouverte tous les jours, c'est super agréable. Ouais.
Bon, allez, une dernière question parce qu'on ne va pas te prendre trop de temps. Le Supercross, l'objectif, c'est quoi? C'est vraiment le Supercross de Paris ou c'est le championnat?
Je ne sais pas trop comment. Parce qu'en fait, j'ai fait quelques courses de Supercross avant, mais je ne sais pas trop où me situer en Supercross. J'ai fait en 125, donc voilà, ce n'est pas significatif. Parce que je pense que ça roule quand même à une bonne vitesse en championnat de France Supercross, en SX2. Maintenant, on a parlé un petit peu d'objectifs avec Valentin, mais je pense qu'on va essayer de se préparer au mieux. L'objectif, ça serait de performer pour les deux, quoi, pour le championnat et pour le Supercross de Paris. D'autant plus qu'en plus, il y a forcément des Américains qui viennent du championnat US à Paris. Donc, ça serait cool de pouvoir montrer que voilà, en championnat de France Supercross, qu'on peut rouler devant aussi avec eux. Mais oui, c'est sûr que de performer à Paris, c'est top parce que voilà, c'est quand même emblématique dans le motocross, le Supercross de Paris, quoi.
Bon, pas de nouvelles à annoncer du coup, non, c'est bon.
Non.
Non, parce que là, on va te lâcher
Dernière
bientôt, non, c'est
chance,
chaud.
c'est chaud. Vous attendez un petit peu et puis c'est bon.
Bon, restez connectés du coup sur les réseaux de Tom
Voilà.
Guyon et du team toute cette semaine. Ça va arriver dans les jours qui suivent. On
Ça
peut même pas avoir
va
une
pas
date ou quoi, un
tarder.
décompte, non, rien. On n'aura rien.
Non, 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 je veux pas trop en dire. C'est faut rester connecté, c'est tout ce que je peux dire.
Restez
Faut laisser le
connectés.
suspense un petit peu quand même, les gars.
Le teaser. Écoutez ce live en boucle, partagez-le et comme ça, voilà. Dès que ça va sortir, vous serez au courant, vous aurez votre téléphone dans la main. Voilà. Et
Exactement.
faites vos pronostics et je pense que vous allez pouvoir, si vous trouvez la bonne réponse, vous pourrez gagner un t-shirt du Team 737. Je pense.
Ouais, on peut faire gagner, ouais, on peut.
On peut. Ouais, c'est notre agent
Ouais,
qui
c'est
verra
bon.
ça.
Moi, je vous offre un t-shirt du Team 737 donc, que eux vont offrir.
Tu offres.
Ouais, que Valentin va offrir directement. Comme ça.
Bon, cool.
Non, mais
Merci en tout cas, Tom.
voilà.
C'est cool de t'avoir
Avec
avec nous ce
plaisir.
soir. On te souhaite une bonne saison, bonne
Ouais,
continuation à
merci.
toi et on se fait le point après le titre de champion de France élite. Pourquoi pas un live
Ça
avec ton
marche,
pote.
ouais. Avec plaisir. On fait comme ça.
Allez, bonne
Allez,
soirée. Salut à
bonne
tous.
soirée. Salut.
Salut, bonne soirée tout le monde.